Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, avec Sergent Ball, en votre compagnie, Hugues Léger et Charlotte Robillard-Ménette sont à mes côtés. Hugues, je vais commencer avec toi. Comment te portes-tu? Comment vas-tu, mon cher ami?
Ça va bien. La dernière bordée de neige est maintenant derrière nous. Les gens appellent, veulent des filets sur les terrains extérieurs. Ça s'en vient. Il y en a déjà à Montréal, Parc Jeanne-Mance notamment. J'en ai vu dans Pointe-aux-Trembles aussi aujourd'hui. Donc, ça s'en vient. Ça va bien. Quand l'été arrive, là, le printemps, on est content.
Oui, parce que je vous rappelle que Hugues est non seulement collaborateur au podcast, mais aussi le magnat du tennis à Montréal, étant le directeur général de Tennis Montréal. À mes côtés, Charlotte Robillard-Ménette qui arrive tout juste de vacances avec un petit teint bronzé. Comment les vacances ont été? Est-ce que ça fait du bien?
Oui, ça fait du bien, mais il fait aussi très beau ici. Donc, c'est le fun de revenir, de voir qu'il y a de la neige un petit peu, mais qu'après ça, il fait très, très beau. Donc, la saison de terre battue commence. Donc, très, très contente pour ça aussi. Puis, la saison universitaire, pour ma part, se termine aussi dans quelques semaines. Donc, très excitée pour la suite.
Est-ce que tu essaies de nous faire croire que tu t'es ennuyée de la neige, Charlotte?
Bien, pour ceux qui veulent skier ou faire des sports d'hiver, oui. Donc, des fois, c'est beau aussi, les arbres pleins de neige. Donc, d'un côté, oui. D'un autre côté, j'ai hâte à l'été.
Je te crois. Tu es une athlète d'été traditionnellement, mais c'est quand même une bonne réponse. Tu t'en es quand même particulièrement bien sorti. Plan de match assez rempli aujourd'hui. On va revenir sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine d'activité, comme on le fait à chaque semaine. Et on va recevoir un peu plus tard Alexis Galarno, qui, lui, vient tout juste de faire une belle finale au Mexique. Parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. Commençons avec Leila Annie Fernandez. Bon, la saison de terre battue, elle est partie. On va d'ailleurs faire notre analyse de ce qui s'en viendra du côté de la terre, peu importe la couleur qu'elle soit. Quoique maintenant, elle est pas mal plus uniforme qu'elle l'a été. Quoique, on a commencé une terre battue grise à Charleston.
Oui, justement. Il y a une petite fenêtre de terre battue américaine à Houston et à Charleston sur du hard true, sur une surface qu'on voit souvent ici aussi au Québec, là, qui est un gris vert. Et bon, Leila qui s'incline au premier tour contre Sloane Stephens, première défaite contre Stephens, donc 6-4, 6-4. De semaine en semaine, j'ai l'impression de répéter un peu la même chose. Moi, je crois que Leila va avoir un gros tournoi cette saison, au moins. Et à chaque semaine, je pense que ça va être celui-là. Puis finalement, il y a quelque chose qui l'embête ou qui accroche. Donc, défaite assez rapide quand même. Maintenant, plie bagage, elle s'en va du côté européen là, pour la série qui mène jusqu'à Roland-Garros. Mais un peu décevant quand même cette défaite au premier tour.
Elle est un peu... On a parlé beaucoup de Félix en disant, bon, ben c'est pas catastrophique ce qui se passe dans le cas de Félix, mais c'est pas à la hauteur de peut-être des attentes d'une finaliste de Grand Chelem ou d'un joueur qui aspire au top 5 mondial comme Félix. C'est un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'elle joue à peu près son classement.
Ben, c'est ça. Elle est 32-35 mondial, là, puis elle joue à ce niveau-là en ce moment, mais elle veut aller chercher ces grosses victoires-là. On le sait qu'elle a quand même chauffé Pegula la semaine d'avant à Miami avec, je crois, c'était un 7-5, 6-4, 2-7 accrochés. Elle n'est pas très loin, Leila, donc je pense qu'elle va pouvoir enchaîner quelques matchs. C'est une question de temps.
C'est la transition vers terre battue. On en parlera un peu plus tard, mais est-ce que le changement de surface peut affecter significativement les performances ou de façon générale, les athlètes sont assez habitués à ce genre-là?
Quand tu arrives sur le circuit professionnel, je pense que tu es quand même assez habitué d'enchaîner les transitions, de passer vers le dur, à la terre, au gazon. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous s'ajuster, tous les athlètes s'ajustent. Il y a une bonne préparation physique qui est faite aussi par rapport à ça. C'est très physique, la terre battue. Il y a des glissades, les points sont plus longs. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits ajustements. Des fois, quand le corps est plus fatigué, c'est peut-être plus insécurisant pour les blessures, un petit peu plus vulnérable de ce côté-là. Donc, il y a des ajustements à faire, mais je pense que tous les joueurs et joueuses sur le circuit sont assez bien préparés de ce côté-là. Puis là, d'un autre côté, il y en a qui préfèrent certaines surfaces que d'autres. Donc là, oui, ça peut jouer sur ça, par contre.
Sans qu'on en fasse une grande analyse, est-ce que tu penses qu'elle est là, un style de jeu qui peut peut-être bien se prêter à la terre battue?
Je pense que oui, d'une certaine manière, parce qu'elle ramène beaucoup de balles, elle est très rapide, elle est très agile. C'est quelqu'un qui travaille très fort physiquement, qui a aussi une bonne amortie. Donc, je pense que ça, sur terre battue aussi, c'est beaucoup, ça bondit moins, c'est plus lent. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de très bon. Elle prend beaucoup dans les airs en swing volley. Donc, ça aussi, sur terre battue, ça peut être bien. Par contre, elle prend très tôt, elle reste basse. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu plus typique de d'autres surfaces, comme par exemple le gazon, rester bas, jouer tôt, comme le dur aussi, quand ça va un petit peu plus rapidement. Peut-être qu'elle aime ça, changer la direction sur des surfaces comme ça. Donc, je pense que c'est sûr qu'il faut qu'elle a dû élargir son style de jeu, je pense, pour s'ajuster à cette surface-là, puis à toutes les surfaces, comme n'importe quel joueur qui veut avoir des bons résultats à l'année longue. Mais je pense que oui, elle peut trouver définitivement des façons de bien jouer sur terre battue.
Puis souvent, on oublie de dire qu'elle a fait un quart de finale à Roland-Garros quand même. Il y a 2 ans, oublions-le pas, et la journée où elle s'est blessée au pied, ce match contre Trévisan, donc qu'elle aurait pu gagner parce qu'elle a battu Trévisan après en Billie Jean King Cup, je le répète, un 6-0, 6-0, donc elle peut performer sur terre battue. Mais je suis d'accord avec toi, Charlotte, elle aime beaucoup là prendre la balle dans le rebond et c'est plus compliqué sur une surface où la balle remonte très haut, là.
Passons du côté de Félix Auger-Aliassime. Victoire, à son match de premier tour. À quoi tu t'attends de Félix?
Bien, je m'attends à plus. Je m'attends à ce qu'il passe quelques tours. Mais encore une fois, il va se frotter à un dur adversaire dès son deuxième tour en Carlos Alcaraz à Monte-Carlo. Une belle victoire au premier tour. J'aime bien quand Félix plie rapidement ses premiers tours. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. Victoire de 6-3, 6-2 aujourd'hui au Monte-Carlo Country Club. C'est un bon début, une bonne entente de Félix. Et on sait que quand il gagne en confiance après un match ou deux, il peut réussir de très, très belles choses, Félix. Donc, bon début de tournoi sur terre battue. Ocre.
Oui, Ocre, tu fais bien de le mentionner. Et il faut rappeler que Lucas Nardi, c'est quand même un joueur qui est quand même bien classé. Là. Et dans le cas de Félix, ça n'a pas été si simple, même contre des joueurs classés plus bas. Il est présentement 76e mondial. Et au prochain tour, ce serait possiblement Alcaraz. Mais là, on en a parlé souvent. Son classement fait en sorte que les deuxièmes tours risquent d'être particulièrement compliqués.
Exact, exact. Puis Alcaraz, Charles, on en parlait un peu hors d'onde, peut-être un petit peu incommodé en ce moment. On sait que longtemps, Félix a eu une fiche gagnante contre Alcaraz. Je pense qu'il a gagné ses 3 premières rencontres, mais depuis, c'est Alcaraz qui gagne chaque fois. Alcaraz 2023-2024 n'est pas le même qu'en 2020-2021. Donc, ça va être un client difficile, là, même s'il est un petit peu incommodé. Mais c'est ce genre de victoire-là que Félix doit aller chercher pour dire « OK, je suis prêt à repasser au prochain niveau. Il faut une victoire qui va lui redonner confiance, qui sera un tremplin pour la saison. » Il y a peut-être ce genre de tremplin-là qui s'offre à lui si jamais il rencontre Alcaraz.
Bon, 2 choses. De un, il vient de battre Lucas Nardi qui, rappelons-le, a créé une des plus grosses surprises récemment en battant Novak Djokovic à Indian Wells. Ouais. Et on en parlait, Charlotte, c'est peut-être un bon moment pour Félix d'affronter Carlos Alcaraz qui n'a pas été aussi constant. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il ne joue pas à 100%? C'est possible. Mais est-ce que c'est un bon moment pour Félix d'affronter Alcaraz?
Oui, je pense que oui. Félix reste déterminé à vouloir retrouver un niveau de jeu qu'il sait qu'il peut atteindre, tout le potentiel de jouer contre des joueurs comme Alcaraz puis d'aller chercher des victoires. Donc, je pense qu'il a la bonne mentalité de jouer sur plusieurs tournois, de rester accroché. Comme on vient de dire, il a battu Lucas Nardi, qui est quand même un joueur qui avait eu une bonne victoire là, tout récemment contre Djokovic, donc peut-être beaucoup de confiance. Donc, je pense que il aime beaucoup jouer sur terre aussi, Félix. Ouais, il se sent très confiant. Donc, je pense qu'avec Carlos, qui a peut-être une petite blessure, se sent moins dedans. Il est moins constant, c'est sûr. On ne peut pas l'enlever de la question parce que, je veux dire, ça reste un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Puis, il a quand même eu des très bons résultats depuis le début de l'année. Mais je pense que ça peut être un moment de au moins aller chercher un bon match serré pour lui démontrer que son niveau est là, qu'il y arrive tranquillement. Mais c'est sûr que ça serait encore mieux d'avoir la victoire.
Oui, ça, c'est sûr. En même temps, bon, on dit que c'est peut-être un timing intéressant pour Félix, mais il risque que Carlos Alcaraz a gagné Indian Wells il n'y a pas si longtemps. Et au final, il a quand même fait des quarts de finale en Australie, à Miami, puis une demi-finale à Buenos Aires. Bon, il n'a pas joué beaucoup de tournois depuis le début de la saison, et on le sait, il n'est peut-être pas à 100% au niveau blessure. Mais Charlotte, je veux te relancer sur une chose. Félix, il a une fiche positive contre Alcaraz. Ça a été fait dans un autre contexte. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose sur lequel il peut se rabattre en disant « Regarde, quand je regarde le chiffre, là, c'est 3-2 pour moi au final. » Est-ce qu'il va arriver avec la même confiance que, bon, je ne sais pas, il y a 3 ans contre Carlos Alcaraz, tu penses?
Bien, comme tu dis, c'était dans d'autres contextes. Peut-être que Félix jouait mieux à ce moment-là, enchaînait plus de victoires, se sentait mieux physiquement, mentalement. Peut-être Carlos n'était pas rendu à où est-ce qu'il est en ce moment. Mais par contre, certainement que quand tu as une fiche gagnante contre quelqu'un, peu importe si ça fait 2 ans, 2 mois, la semaine passée, peu importe, il y a quand même cette assurance-là que tu es capable de jouer contre cette personne-là et d'aller chercher une victoire. Des fois, on a une bête noire puis on ne l'a jamais battue. Donc déjà là, il y a des blocages mentaux qui font en sorte que des fois, on sait que ce style de jeu-là ou cette personne-là a des choses qui nous dérangent dans son style de jeu, que ce n'est pas compatible pour aller chercher une victoire. Donc, juste le fait de l'avoir déjà fait dans le passé, même si ça fait longtemps, je pense que ce n'est pas comme si Félix a arrêté non plus pendant un an ou deux, puis il recommence à zéro. Tu sais, il a quand même continué de jouer, puis je pense que son niveau est là, il faut juste que ça continue d'éclore puis de se manifester. Mais je pense que définitivement, même si récemment ça n'a pas été le cas, le fait de l'avoir déjà battu, ça reste un aplomb, là, un avantage pour la personne qui a déjà une fiche gagnante contre cette personne-là.
Ce sera un premier affrontement sur terre battue. Peut-être la bonne nouvelle pour Félix, ben, c'est que ses seules défaites aux mains de Carlos Alcaraz sont survenues à Indian Wells. Ouais. Alors, tant qu'on ne joue pas à Indian Wells, peut-être qu'on est correct dans le cas de Félix. Enfin, on verra, ça va être un match intéressant. Je pense que c'est un match popcorn pour l'essentiel des amateurs de tennis quand tu vois Félix et que tu vois Carlos Alcaraz. Penses-tu que Félix peut passer outre Carlos Alcaraz?
Comme on disait, c'est le moment et je sens que Félix mesure l'importance de ces matchs-là. C'est un bon match-up pour lui en ce moment. Il sait qu'il faut une victoire comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il va arriver avec beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté pour ce match-là. Je m'attends à un match très serré, en fait.
Intéressant. Hugues, si tu le veux bien, on va faire une courte pause. Après l'analyse de ces résultats canadiens, bien, on va regarder ce qui s'est passé du côté des résultats masculins et féminins.
Séjournez à l'Hôtel Montville durant la Formule 1 et profitez des chambres confortables avec des vues imprenables sur le centre-ville de Montréal et une localisation idéale pour visiter Montréal et se rendre au Parc Jean-Drapeau. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 le dimanche 14 avril. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado via notamment les plateformes numériques de Cogeco. Également une version télédiffusée à TVA Sport. On est bien fiers de tous ces progrès-là pour l'émission. Bon, regardons ce qui s'est passé du côté masculin. J'allais dire du côté masculin. On va le regarder, mais je veux qu'on commence du côté féminin parce que Daniel Collins, après avoir surpris tout le on est remporté Miami la semaine passée, ben, enchaîne à Charleston avec un autre titre. Elle est rendue inarrêtable.
Elle est imprenable en ce moment, Danielle Collins. Et on le disait un peu plus tôt, deux surfaces différentes quand même. Là. Elle passe d'une surface dure assez rapide à Miami à une surface quand même lente à Charleston. Et elle enchaîne victoire après victoire. Elle remonte dans le top 20. Elle est rendue 15e, je pense, au nouveau classement aujourd'hui. Elle est sur une série de 13 victoires consécutives. C'est toute une séquence pour Collins qui avait annoncé sa retraite pour cette année. Dieu sait jusqu'où elle va se rendre, là, mais c'est bien parti pour elle.
Elle a détruit Daria Kazatkina 6-2, ouais. 6-1 en finale. Est-ce que tu penses, Charlotte, que, bon, Daniel Collins, on a toujours su que c'était une bonne joueuse. C'est quand même une finaliste de Grand Chelem, mais ce n'est plus une fille qu'on attendait avec des titres aussi importants. En tout cas, moi, je ne l'attendais plus là nécessairement. Est-ce que tu penses que le fait qu'elle ait annoncé sa retraite, et ça lui a donné des ailes, ou en fait, elle joue plus légère d'une certaine manière?
Certainement. Je pense qu'on le voit. Là, elle se sent libre, elle se sent complètement légère, libérée. Même, on la voit sur une mission. Moi, quand je la vois jouer ses matchs, c'est ce que je ressens. Je ressens que chaque point est précieux, chaque point est unique. Elle est vraiment engagée à 100%. Donc, c'est très inspirant de la voir aller. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, les athlètes vont, en fin de carrière, avoir moins de résultats, se sentir un petit peu moins
confiant
ou physiquement à la hauteur. Donc, vers un certain âge, ils vont décider d'annoncer leur retraite. Puis c'est un peu comme triste pour les fans puis pour l'athlète en question. Mais elle, c'est tout le contraire. Elle a le vent dans les voiles, puis elle décide d'y aller à fond. Je pense que les raisons de la retraite sont aussi par rapport à un problème de santé qu'elle a. Donc, je pense qu'elle veut y aller complètement à 100 % finir sur une bonne note. Puis effectivement, c'est ce qu'elle fait. Donc, je pense qu'elle doit être très fière de ce qu'elle accomplit. Personne, comme tu dis, aurait pu vraiment prédire ça de Danielle Collins, mais qui était quand même une très bonne joueuse, là, je pense, en février, qui était 71e mondiale, qui est maintenant 15e mondiale. C'est rare qu'on voit ça. Elle a gagné, comme tu dis, deux tournois de suite sur deux surfaces différentes. Pas de bail, parce que son classement ne le permettait pas. Donc, 13 matchs de suite. Puis là, elle se ramasse dans le top 20, dans le top 15. Puis toutes les joueuses avant elle ont probablement beaucoup de points à défendre aussi. C'est ça qui est intéressant, de voir qu'elle a pas beaucoup de points pour les quatre prochains mois à défendre.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'elle pourrait continuer. Elle pourrait peut-être atteindre un classement encore plus intéressant. Est-ce qu'il faut commencer à la considérer comme une des prétendantes, ou est-ce que c'est une séquence, Hugues, qui risque de s'estomper prochainement? Tu la vois comment, cette séquence-là de Collins?
Bien, c'est sûr qu'elle est sur une lancée de confiance aussi en ce moment. Je vous l'avais dit, très libérée en ce moment. Mais bon, là, elle va faire le voyage vers l'Europe. La terre battue rouge est encore plus lente que l'Archer, terre battue américaine, où elle a gagné à Charleston. Donc, on verra. C'est quand même une longue séquence qui s'amorce là, jusqu'à Roland-Garros. Est-ce que physiquement, elle pourra tenir jusqu'au bout aussi? Il y a l'âge. Bon, c'est une jeune femme quand même, mais au niveau du tennis, c'est peut-être plus compliqué pour elle d'enchaîner semaine après semaine. Mais c'est certain que les joueuses ne doivent pas avoir envie de la rencontrer en ce moment. Même les joueuses les mieux classées, là, c'est évident qu'elle peut bousculer beaucoup de joueuses. C'est une joueuse qui a un jeu très complet, très gros coup droit, beaucoup de puissance, qui va fonctionner aussi sur terre battue. Donc attention pour les prochaines semaines avec Danielle Collins.
Charlotte, je veux qu'on revienne sur un élément, parce que tu étais en vacances la semaine passée et il y a quelque chose qui a attiré notre attention. J'en ai brièvement parlé avec Nico la semaine passée. Bon. Évidemment, partout où elle va, à cause de ses résultats qui vont particulièrement bien, ça fait poser la question, penses-tu continuer ta carrière plus longtemps à la lumière des résultats que tu as présentement? Et là, ce qu'elle a mentionné, c'est que elle a quelques petits soucis de santé qui, notamment, l'empêcheraient lui compliquerait la vie peut-être pour tomber enceinte, avoir des enfants. Mais elle a également ajouté qu'elle était un peu tannée de se faire poser des questions, et elle a ajouté que si c'était un homme, peut-être que ces questions-là ne reviendraient pas aussi souvent. Et je suis curieux de t'entendre, toi comme athlète, est-ce que tu as l'impression que c'est une question de genre ou, selon toi, quand même, c'est un peu normal que les questions reviennent tournoi après tournoi?
Bien, il y a plusieurs niveaux à cette question-là. Je pense que c'est sûr que dès qu'on aborde le sujet de vouloir avoir des enfants, de vouloir tomber enceinte, c'est sûr que ça crée plusieurs questionnements, puis c'est jamais pareil puisque les femmes ont cette réalité et les hommes non. Donc, peut-être qu'elle se sent un petit peu persécutée de cette manière-là, voulant aller chercher un petit peu plus d'empathie, de compréhension du public en disant, moi, c'est ma réalité, j'ai cette maladie qui fait en sorte que c'est plus difficile pour moi de tomber enceinte. Donc, c'est pour ça que je veux terminer ma carrière un petit peu plus tôt. Puis, je pense que peut-être les réactions ne sont pas celles auxquelles elle s'attendait. Donc, elle met ça probablement peut-être tout dans le même panier en disant, c'est parce que je suis une femme qu'on met beaucoup de pression par rapport à arrêter si tôt, puis si je veux arrêter, pourquoi je veux arrêter aussitôt. Mais selon moi, je pense que c'est juste je ne veux pas enlever de la crédibilité à ce qu'elle dit, parce que si elle le mentionne, c'est qu'elle doit ressentir ça des journalistes, puis probablement qui pèsent sur le crayon, comme on dit, par rapport à ça. Mais peu importe le sexe, le genre de la personne qui joue extrêmement bien juste avant d'annoncer qu'elle veut prendre sa retraite, je pense qu'il va y avoir des questionnements. Il va y avoir des questionnements de « Es-tu certain que c'est le bon moment? T'es encore jeune? Aimerais-tu mieux pas continuer? » Donc, je pense que ce serait n'importe quel autre joueur du circuit qui, là, elle a 30 ans. Un autre joueur qui aurait 30 ans, on lui demanderait probablement les mêmes questions. Donc, je décrédibilise pas ce qu'elle dit, mais en même temps, je pense que c'est un peu de tout mettre dans le même panier. Je pense que c'est juste normal comme réaction de dire « Wow, ça se passe tellement bien, tu as des résultats incroyables, tu sais, continue un petit peu plus. » Mais en même temps, il faut être compréhensif que si elle, c'est ce qu'elle vit, puis c'est ses ambitions de vie de vouloir fonder une famille, je pense qu'il faut vraiment comprendre que aussi il y a d'autres choses que le tennis. Puis elle a une carrière avec laquelle elle est bien, elle est fière, elle veut passer à d'autres choses, elle veut fonder, elle a un copain. Donc, tu sais, peut-être que c'est plus ça, ses objectifs pour le reste. Je pense que ça, il faut bien le respecter, il faut bien le comprendre. Puis évidemment, ce ne serait pas la même chose si c'est un homme parce qu'ils n'ont pas cette réalité.
Hugues, s'il y a une chose au podcast, on n'a jamais hésité à les aborder, ces sujets-là qui sont parfois controversés. Je vais me tourner vers toi pour te le demander. Tu sais, est-ce que tu penses que c'est une question de genre? Ou toi, comme gars qui a travaillé dans les médias une bonne partie de sa carrière, tu penses que c'est quand même justifié qu'elle se fasse questionner à ce niveau-là, justement en raison de ses résultats?
Ben, c'est juste normal que les questions viennent. Elle gagne son plus gros titre en carrière. Elle enchaîne tout de suite après avec un autre titre. Donc, deux de ses 4 titres en carrière ont été gagnés depuis 2 semaines. Donc, forcément, tu dis, bon, la fille est sur un high, pourquoi elle ne continuerait pas? Mais effectivement, on regarde les statistiques au niveau de sa carrière, c'est 8 millions, en fait, plus de 8 millions en prize money, c'est 4 titres, je viens de le dire. Elle est montée jusqu'au 7e rang mondial. Elle peut être en paix avec ce qu'elle a accompli. Donc, elle s'est dit, je donne un dernier effort maintenant, je fais une dernière poussée là, en 2024. Et elle a d'autres ambitions au niveau de sa vie. C'est tout à fait compréhensible. C'est une jeune femme à 30 ans, on le disait. Mais oui, ça se comprend aussi que du côté féminin, là, elle peut se dire, OK, moi, je vais aborder... comment dire, ma vie sur une autre phase maintenant, et c'est terminé. Puis peut-être qu'elle va faire un super été, puis elle va arrêter après. Je pense que pour elle, c'est peut-être du bonus qui se passe en ce moment. Mais j'ai l'impression que sa décision est prise, et il faut respecter ça.
Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. On jase, là. Donc, toi, tu me dis, elle ne reviendra pas sur sa décision en dépit des résultats.
Non. Je ne penserais pas. Je pense qu'elle va être questionnée, comme elle l'est en ce moment. C'est normal, parce que c'est une des forces du circuit féminin en ce moment. Mais je pense qu'elle va passer à la suite.
Écoute, tu sais, on pourrait se dire, ouais, elle joue peut-être le meilleur tennis de sa carrière. C'est peut-être vrai. C'était le cas de Flavia Pennetta au moment où elle a remporté le US Open. Mais elle a quand même décidé de prendre sa retraite en se disant, bien, je me retire au sommet. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je viens d'être championne de Grand Chelem alors que personne ne m'attendait. Je pense pas qu'il y a personne qui attendait Flavia Pennetta à cette époque-là. C'était vraiment, en plus, c'était les dernières grosses années de Serena Williams. À cette époque-là. Charlotte, si toi, je te pose la question-là, mets-toi dans la peau d'une athlète. Puis là, tu as annoncé ta retraite. Là, tu gagnes. Puis tu gagnes encore. Puis tu gagnes encore. Reviens-tu sur ta décision?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération par rapport à ça. Si j'ai envie d'avoir des enfants, puis j'ai une complication à ce niveau-là, peut-être pas. Mais comme on discutait, je pense que ça peut être un bonus en ce moment pour elle. Elle peut être très... T'sais, elle peut avoir beaucoup d'adrénaline, elle peut être sur un high, comme on dit, puis juste surfer la vague un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Elle disait en entrevue pendant son tournoi à Charleston que en ce moment, ses routines vont super bien, elle se sent bien, elle veut garder ça le plus longtemps possible, elle veut allonger cette séquence, mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui est inhumain ou inhumaine, donc à un moment donné, ça va finir par casser. Puis je pense que de se retirer après avoir annoncé qu'elle voulait que ce soit sa dernière année. Je pense que d'avoir une séquence comme ça, ça peut juste être vraiment extraordinaire pour elle d'avoir ces victoires, ces résultats-là. Mais, tu sais, ça peut être une drôle d'analogie, mais je pense que, tu sais, c'est pas les mêmes sujets, mais des fois, tu sais, t'es au casino, puis tu fais beaucoup d'argent, puis là, t'es rendu à un certain chiffre, tu te dis, OK, là, c'est bon, parce que je sais que j'ai comme poussé ma chance un petit peu, comme on dit. Fait que là, je retire, puis je pars, puis je suis heureux, puis je suis serein avec ça. Donc, peut-être qu'à la fin de l'année, elle va se dire, regarde, j'ai eu ma belle séquence, je sors la tête haute, j'ai tout ce que... Tu sais, j'ai plusieurs titres, j'ai beaucoup d'argent, j'ai accompli quelque chose de bien, puis peut-être que de l'autre côté, si elle continue quelques mois ou un an, puis ça commence à mal aller, peut-être qu'elle aurait aimé se retirer plus tôt. Donc, moi, je pense que ça va être une fin très positive et heureuse pour elle, mais elle va rester sur sa décision, je pense.
Intéressant. Caché au bon moment pour utiliser l'expression dans un casino, c'est là qu'on sait que... Charlotte a des tendances de gambleuse compulsive. Non, j'exagère vraiment. Mais je trouve ton...
Une fois par année.
As-tu une fiche gagnante?
Gagnante.
Oh, wow! Oh,
ouais. Non, c'est ça, c'est mon petit secret bien caché.
Je suis de la même école. Je gagne 200 $ au blackjack, j'arrête, ma soirée est faite.
Il faut savoir quand se retirer, quand c'est le temps de partir.
Bien là, dites-moi quand vous allez y aller au casino, je vais vous suivre et acheter votre chance. Bon, évidemment, on a parlé de Daniel Collins, c'est quand même phénoménal, ce quatrième titre. Et puis, tu en parlais hors d'onde, c'est son deuxième en deux semaines, elle a la moitié de ses titres. Ouais.
Et Alex, 3 victoires contre des joueuses du top 10 quand même. Là. On a quand même sur cette liste-là Kazatkina, on le sait le week-end dernier, Sakkari et Jabeur. C'est fabuleux ce qu'a fait en ce moment Daniel Collins.
Ouais. Ouais, ajoutons aussi, ne serait-ce pas là, Badosa, qui est une ancienne top 2 mondiale dans ce tournoi-là. C'est quand même assez phénoménal ce qu'elle a réussi à faire. Elle a battu Sloane Stephens. Bon, Sloane Stephens, c'est plus la joueuse qu'elle était, mais il reste que c'est quand même une ancienne championne du US Open. Daria Kazatkina, c'est une fille qui a été dans le top 10 mondial. Je veux dire, c'est pas un tableau nécessairement facile, peut-être à part Mertens, mais Mertens, c'est peut-être une des joueuses les plus polyvalentes sur le circuit. C'est une excellente joueuse de double également. Alors, honnêtement, elle a du mérite, c'est pas comme... Et tu fais bien de le rappeler, la semaine passée, elle a battu quand même Rybakina et Garcia dans son tournoi à Miami. Elle est sur, probablement, je pense qu'elle-même l'avoue, c'est la meilleure séquence de sa carrière. Quand on regarde les autres résultats, peut-être mentionnés qu'à Bogota, c'est Camila Osorio qui l'a remporté en finale contre Maria Buscova. Je remarque que dans ce tableau-là, il y avait Sara Errani, qui ne joue plus autant de tournois et qui n'est plus au sommet. On parlait tantôt de Flavia Pennetta, c'est à l'époque où les Italiennes avaient fait très bien à ce US Open. Du côté des hommes, mon cher Hugues, on a eu droit à, je ne sais pas, des grands serveurs là, qui sont de retour au sommet. Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz, notamment, qui ont mis la main sur des titres.
C'est ce que je retiens des victoires sur terre battue de la semaine dernière. Donc, Hubert Hurkacz qui gagne, Berrettini qui revient après 2 ans avec un premier titre à Estoril. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Ben Shelton, du côté de Houston, qui bat Tiafo. Donc, 3 gros serveurs que j'aurais peut-être pas mis comme favoris dans cette première séquence sur terre battue. Après 2 tours au Sunshine Double sur des surfaces dures et assez rapides, surtout à Miami. Donc, ça indique aussi que le gros service fonctionne sur toutes les surfaces aussi.
Bien, c'est ce que j'allais dire. Ironiquement, bon, la surface qui avantage peut-être le moins les gros serveurs, tu me diras si je me trompe, mais c'est la terre battue, Charlotte, de façon générale. Et oui, je m'étais gardé Ben Shelton en dernier pour parler de cette finale-là qui était une première finale toute noire américaine. Et ça m'a quand même surpris quand j'ai vu cette stat-là.
Bien, écoute, les deux mêmes joueurs avaient eu le premier quart de finale All-American de deux joueurs noirs il y a quelques années. Et là, la première finale, donc All-American de deux joueurs noirs. C'est un peu étonnant, mais on regardait un peu historiquement. Ils ne sont pas tous arrivés au même moment, les très bons joueurs américains. Si on remonte à Arthur Ashe, James Blake, Melvay Washington, si on remonte un peu plus en arrière aussi. Donc, tant mieux si ça arrive maintenant. Puis ces deux joueurs éminemment sympathiques, très talentueux, très divertissants, qui sont bons pour le tennis américain et bons pour la participation.
Et c'est drôle que tu dises ça parce que ma question que j'allais te poser, c'est est-ce que s'il fallait qu'une rivalité se développe entre Tiafo et Ben Shelton, ce serait excellent pour le tennis et le tennis américain notamment?
Assurément, il y a une rivalité entre Fritz et Tiafo aussi. Déjà, on l'a vu dans Breakpoint. Mais c'est sûr que ces rivalités-là, elles sont payantes. Je reviens en arrière, comme je le fais souvent, mais monter au Jimmy Connors contre McEnroe, c'était très payant pour les clubs américains, pour le tennis américain, pour les nouveaux joueurs qui arrivaient pour imiter ces joueurs-là, qui étaient polarisants aussi parce que deux personnalités fortes, très différentes aussi, on aimait un ou on aimait l'autre. Donc moi, je la souhaite, cette rivalité-là entre Shelton et Tiafo.
C'est un deuxième titre pour Ben Shelton en carrière sur le circuit de l'ATP. Il avait remporté le tournoi de Tokyo l'an passé. Est-ce que Ben Shelton, qui est présentement 13e mondial, peut aspirer à être le meilleur joueur américain pour les 6, 7, 8, 9 prochaines années, Hugues?
Je pense que oui, parce que son jeu peut être perfectible encore. Il y a des éléments à améliorer. On en parlait plus tôt aussi à Hordon. Il est un peu comme un jeune chien fou, Shelton, encore. Il va avoir des très bonnes séquences. Il va faire des trucs un peu bizarres aussi des fois, mais je pense que la qualité de son jeu, sa progression extrêmement rapide aussi. Oublions pas qu'il était sur le circuit américain il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi environ. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de place pour le progrès de Ben Shelton et qu'il pourrait rejoindre le top 5 là, plus tôt que tard.
Il est tout juste derrière Taylor Fritz présentement. Ouais. Comme Taylor Fritz, c'est le meilleur américain, mais le tennis américain a vraiment repris du poil là-bas dans les deux dernières années. Ouais. Quand on regarde ce que Tommy Paul a fait récemment, quand on regarde Taylor Fritz ce qu'il a fait, et Francesc Tiafoe, on sait à quel point il est excellent et il nous a fait vivre toutes sortes d'émotions au US Open. Tu penses quoi, toi, Charlotte? Est-ce que Ben Shelton va être le joueur dominant américain pour les 7, 8, 9 prochaines années ou, attention, là, la compétition reste très forte pour l'instant?
La compétition est très forte pour l'instant. Je pensais notamment aux Olympiques, qui envoient 4 joueurs de leur pays. Donc là, on voit que déjà, plus que 4 joueurs dans le top 25, top 30. Donc, ça va être difficile, je pense, pour les Américains. Mais je pense que Ben Shelton, comme on disait, a un caractère un peu impulsif, peut-être de la maturité qu'il va en prendre probablement avec les années. T'sais, je veux dire, comme tu disais, il a vraiment explosé. Je pense que j'ai vu un peu plus tôt qu'il avait gagné son premier tournoi professionnel en 2021. Puis là, il est 14e au monde, 3 ans plus tard. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On ne sait pas qu'est-ce qui peut être la suite pour lui. Des joueurs comme, par contre, Taylor Fritz, Tommy Paul, puis Francis Tiafoe qui sont sur le circuit depuis longtemps. Je pense que c'est quand même... ça leur donne une expérience de plus, ça leur donne une constance de plus, peut-être. C'est peut-être un peu ce qui lui manque. Il est gaucher aussi, donc je pense que ça peut être un avantage. Il n'y en a pas beaucoup sur le circuit.
Comme toi?
Comme moi, je parle d'expérience. Donc, tout ce qui est service, tout ce qui est gamme, coup droit à revers, des choses comme ça, quand on rentre un petit peu plus dans le tactique. Donc, je pense que ça, c'est des avantages, certainement. Il est très, très fort physiquement. On le voit très talentueux. Donc, il y a des belles années à venir pour lui. Je pense que ça va être de prendre peut-être un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité, un petit peu plus de constance sur les tournois, puis de travailler mentalement, à rester peut-être concentré parce qu'on voit qu'il est très émotif, puis qu'il est un peu comme le blagueur ici et là, entre les points, des fois, dans ses réactions. Donc, mais je ne suis pas surprise s'il continue d'avoir des très bons résultats, là, puis de rester très près de ses autres collègues américains.
En gros, là, si on allait au casino, toi puis moi, là, puis on se demandait qui va être le meilleur joueur américain dans les 10 prochaines années. Tu me dirais, je tomberais pas en bas de ma chaise si c'est Ben Shelton, mais je gagerais pas tout mon argent là-dessus.
Ouais, je suis très analytique, là, surtout quand je suis en train de gérer mon argent au casino.
À roulette.
À roulette, surtout. Mais moi, je te dirais que Ben Shelton, il y a Korda aussi qu'on n'a pas mentionné.
Bon point!
Mais je veux dire, lui aussi, il est impressionnant. Puis il a comme ambition de gagner 2 grands chelems parce que son père en avait gagné juste un. Donc, j'ai vu récemment qu'il a dit, moi, mon objectif, c'est je veux gagner dans ma carrière 2 grands chelems. Je ne vais pas arrêter tant que j'en ai pas minimum 2, 1 de plus que mon père. On ne peut pas l'enlever de la question, quand même 27e au monde. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même assez une course assez rude, comme je disais, comme cette année pour les Olympiques aussi. Mais je crois beaucoup en Ben Shelton, puis je crois beaucoup en Korda, je veux dire.
Bon. Et puis tu sais, on n'a même pas parlé de Christopher Eubanks aussi, qui quand je regarde le classement, il est autour de la 40e place mondiale. Il commence à faire... Mais tu voulais ajouter, toi, sur Korda?
Ben oui, Korda, effectivement, qui est un joueur plus méthodique, plus posé que Ben Shelton, qui a beaucoup, beaucoup de talent aussi. On sait qu'il a été embêté par une blessure au poignet en 2023. Il commence à revenir maintenant. Mais je rebondis sur ce que Charlotte disait. C'est un gaucher, Shelton, mais un gaucher qui joue très fort. Souvent, le gaucher va plutôt jouer sur les angles, sur les effets, et tout ça. Lui, il joue du power tennis d'une façon plus brute, là. Et moi, j'aime bien ce mix-là de joueurs gauchers, mais qui peut jouer fort aussi, qui peut jouer très fort. Donc, je pense que ça, c'est un vrai avantage pour lui. Et on le rappelle, il a juste 21 ans, donc je pense qu'il y a encore une marge de progression, assurément, Shelton. Puis moi, encore une fois, je souligne le trait personnalité qui pourrait amener beaucoup de joueurs à essayer le tennis et à s'identifier à Ben Shelton.
Bien, on sait que si vous appelez Ben Shelton, il pourra vous raccrocher au nez sans problème. Ça, on le sait. Et c'est drôle parce que je trouve que ça en dit long, la conversation qu'on vient d'avoir, parce que On a parlé de beaucoup de choses, du fait qu'il est gaucher, du fait qu'il est polyvalent, puis vous m'avez même pas parlé de son service encore, qui est déjà un des meilleurs sur le circuit de l'ATP, sinon le plus rapide sur le circuit de l'ATP au moment où on se parle. Et ça, ben, ça avantage peut-être la longévité de certains joueurs, parce que des fois, ben, tu vas gagner beaucoup de points gratuits avec ton service quand tu as un service de la qualité de celui de Ben Shelton. Alors, je vous rappelle qu'il a remporté ce tournoi-là, lui, Ben Shelton, à Houston, et puis ben, à Marrakech, c'était Matteo Berrettini, oui. Et c'était Hurkacz à Estoril également. Voilà, alors les résultats de la semaine passée. Nous, on va faire une courte pause et puis au retour, ben, on va commencer à regarder ce qui va se passer du côté de la terre battue. Il y a des mauvaises nouvelles du côté de Monte-Carlo.
Séjournez à l'Hôtel Montville durant la Formule 1 et profitez des chambres confortables avec des vues imprenables sur le centre-ville de Montréal et une localisation idéale pour visiter Montréal et se rendre au parc Jean-Drapeau. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Les cours de yoga et méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 le dimanche 14 avril. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, l'émission officielle de l'Omnium Banque nationale. C'est le dernier bloc de l'épisode. Hugues, la saison de terre battue, elle est officiellement commencée. Il y a déjà des titres qui ont été joués en Amérique du Nord notamment, mais on se transporte vers l'Europe et ce sera la vraie saison qui va commencer. À quoi t'attends-tu? Qui sont tes favoris? Fais-nous là, tes prédictions pour ce qui s'en vient pour les semaines à venir.
Bien, comme le dit le très certain Novak Djokovic, premier joueur mondial, le meilleur joueur au monde en ce moment, c'est Yannick Sinner. Donc, je m'attends à ce que Yannick Sinner ait une très bonne période, de très bonne série sur terre battue d'ici Roland-Garros. Il n'y a qu'une défaite cette année, en 2024. Donc, Sinner est le joueur à surveiller. Étant italien aussi, on sait qu'il a joué beaucoup de tennis sur terre battue dans ses années de développement. Donc, je vais suivre Sinner de très près. Alcaraz en santé pour moi aussi est l'autre joueur à surveiller. Mais c'est Sinner, Alcaraz pour moi que je mets en premier. Point d'interrogation sur Djokovic après quelques contre-performances depuis le début de la saison. Mais c'est pour moi entre ces deux-là que ça va se passer.
Intéressant. Je pense qu'il est définitivement un candidat, Yannick Sinner, puisqu'il est le meilleur joueur sans aucun doute depuis le mois de janvier. Et même, on l'a dit à plusieurs reprises, depuis la fin de la saison. Passée. J'aime beaucoup ton point d'interrogation sur Novak Djokovic, hein, parce que ben, c'est évidemment un joueur contre lequel on ne peut absolument pas gager. On n'a pas nommé le nom d'Alexander Zverev. Est-ce que c'est un joueur que tu vois également dans le portrait, Charlotte, ou est-ce que ben, les joueurs évoqués par Hugues seront également les joueurs que tu vas surveiller pour les semaines à venir sur terre battue?
Moi, je pense que oui, effectivement, Sinner, Alcaraz, c'est deux joueurs qui ont eu de très bons résultats jusqu'à date. Une seule défaite pour Sinner depuis le début de l'année, c'est quand même assez incroyable. Quand Novak Djokovic, en forme ou pas, peu importe, le mentionne que c'est le meilleur joueur en ce moment, malgré que lui-même est numéro un, je pense que ça n'en dit long. Donc, ces deux-là, Zverev, c'est pas nécessairement mon joueur favori, mais je pense qu'il y a un bon niveau en ce moment sur terre. Il joue bien, effectivement. Il y a aussi Shelton. Je pense qu'il y a eu quand même une bonne séquence sur terre, qui joue bien, qui est en forme physiquement, qui a un gros service, qui fait des belles choses. Donc, je pense que quand même, il y a Dimitrov aussi qui peut causer des surprises. On l'a vu récemment. Donc, je pense qu'il y a quelques joueurs qui peuvent bien faire très, très... excité de voir la suite sur terre battue, mais je devrais, si j'avais à nommer quelqu'un, ce serait probablement Sinner.
Ouais, je pense que c'est le choix facile à faire. Est-ce qu'on s'attend du côté des hommes? Du côté des femmes, est-ce que tu penses que ce sera le retour en force de Świątek? Est-ce qu'on peut vraiment gager contre elle?
Świątek, avec plus de 3000 points d'avance au premier rang mondial, on sait que c'est la surface qu'elle préfère probablement, victorieuse à Roland-Garros déjà. Je m'attends à ce qu'elle soit la joueuse à battre encore cette année sur terre battue. Mais attention, on sait souvent que du côté féminin, ça peut être peut-être plus ouvert à l'occasion. Donc, on ne serait pas à l'abri de quelques surprises. Mais ça ne sera pas la grande saison, je crois, pour une Sabalenka qui est quand même deuxième mondiale. C'est pas Rybakina aussi que j'attends trop sur terre battue. Mais peut-être qu'une Coco Gauff pourrait nous surprendre là, dans cette série-là d'ici Roland-Garros.
Tous d'excellents choix. Hugues ne m'a pas nommé Sabalenka. Est-ce que tu penses que c'est une joueuse qui pourrait surprendre? Bien, surprendre quand même numéro 2 mondial, l'ancienne numéro 1. Je sais pas si le terme surprendre est le bon, là. Mais est-ce que tu vois, bon, Świątek ou est-ce que tu vois une Sabalenka venir mêler les cartes?
Moi, je suis un petit peu Je suis pas certaine par rapport à Sabalenka, qui a vécu quand même des moments difficiles là, récemment avec le décès de son ancien copain. Donc, je sais pas où est-ce qu'elle est en ce moment, émotionnellement, psychologiquement. Peut-être qu'elle est passée à travers quelques matchs, quelques tournois suite à ça, mais on voyait qu'elle était très émotive. On voyait que vraiment ça venait la toucher. Il y a eu plusieurs réactions où est-ce qu'elle a brisé sa raquette, qu'elle envoyait des balles par-dessus les estrades. Donc, puis c'est comprenable. Je dis pas que c'est évidemment, c'est une passe plus difficile pour elle. Donc, je ne sais pas si elle va peut-être prendre plus de temps pour elle. Peut-être qu'elle va revenir en force. J'ai des points d'interrogation par rapport à ça. Je pense que c'est une joueuse qui est très puissante, pas nécessairement une joueuse qui est celle qui ramène beaucoup, qui court droite-gauche, mais plus celle qui domine puis qui met de la pression avec sa puissance, sa force. Donc, peut-être que la terre battue, c'est moins sa tasse de thé. Donc, moi, je dirais plus Swiatek. Je ne peux pas l'enlever de la question. Elle a montré sa supériorité au niveau des derniers mois, voire la dernière année. Moi, c'est sûr que j'y vais pour Swiatek, Coco Gauff, qui, d'après moi, va avoir des bons résultats. Mm-hmm. Et je te dirais même peut-être une Pegula et peut-être une Jabeur. Quelques questionnements par rapport à Jabeur, mais ça reste quand même une finaliste de Grand Chelem. Ça reste une joueuse très complète qui varie beaucoup. Donc, sur terre battue, ça peut être quand même avantageux, là.
Je pense que vos analyses sont absolument à point. Peut-être garder à l'œil également une certaine Yelena Ostapenko qui, mine de rien, est de retour dans le top 10 mondial et qui a déjà remporté ce tournoi-là. Vous avez peut-être une carte, un black aces, là, comme on dit en anglais, ça sera peut-être une bonne carte à jouer parce que je pense qu'effectivement, les tops, entre guillemets, seront les tops pour la saison de terre battue. Rapidement, on s'attend à quoi des Canadiens? Est-ce que les Canadiens vont nous surprendre? Vois-tu quelqu'un sortir du lot, Hugues?
Avec les performances depuis le début de l'année, je pense que nos Canadiens et Canadiennes vont bien performer sur leur surface de prédilection, qui est habituellement le dur, donc plus dans la série américaine. Par contre, encore une fois, une Leila Fernandez peut nous surprendre sur terre battue. Je le répète, elle a été quart de finaliste il y a 2 ans à Roland-Garros. Elle est capable, Leila, de se rendre loin sur le tableau. Encore une fois, avec Félix et Dennis, plus de points d'interrogation. On verra un match après l'autre là, comment ils pourront progresser. Mais ils ont déjà fait des belles performances sur terre battue aussi. Félix a des victoires. Son premier tournoi avait été gagné à Lyon, en Challenger d'ailleurs. Donc, il aime cette surface-là aussi.
Charlotte, est-ce que tu vois peut-être des Canadiens nous surprendre? Est-ce que Chapeau va continuer sa progression peut-être? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un selon toi qui peut sortir du lot?
Moi, je le souhaite pour tous nos Canadiens et Canadiennes. On en parle à chaque semaine. On espère que c'est la foi qu'ils vont passer à travers une bonne semaine, qu'ils vont aller chercher des grosses victoires. Je pense que Félix est proche de tout ça. J'espère ne pas me tromper. Leila, qui est quand même 28e mondiale, qui a quand même eu des bons résultats, comme tu le mentionnais, Hugues, sur terre battue. Mais c'est difficile parce que la compétition est forte. Hein. Chaque joueur, chaque joueuse veut gagner sur chaque tournoi, sur chaque match. Donc, il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui jouent bien en ce moment. Ça va vraiment... D'après moi, ce serait peut-être plus Félix et Leila. Mais si on regarde aussi à l'extérieur du top 100 et même du top 200, il y a Marina Stakoučík, que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire dans les prochains mois. Puis aussi Alexis Galarneau, qui a eu quand même un bon tournoi à Challenger cette semaine. Donc, à voir pour ceux qui sont un petit peu derrière, mais qui, d'après moi, vont rattraper quand même aussi. Là, donc, des belles choses à venir.
Dernier élément sur cette saison de terre battue. On a appris cette semaine, au moment du moins où on enregistre l'émission, que Rafael Nadal ne sera pas à Monte-Carlo. On ne l'a pas vu beaucoup depuis le début de l'année, Rafael Nadal. Est-ce que ça sent le chant du cygne à Roland-Garros?
Oui. Je pense que son corps commence à lui dire « c'est assez ». Il sait qu'il peut avoir des conséquences à très long terme s'il fait plus de dommages à son pied, notamment. Donc, moi, j'ai l'impression que Roland-Garros sera le champ du cygne cette année. Souhaitons qu'il puisse gagner quelques matchs, mais je ne m'attends pas à une longue série sur terre battue. On sait qu'il aime beaucoup le tournoi de Barcelone, qui est son tournoi « maison », entre guillemets. Je m'attends à ce qu'il se fasse une présence à Barcelone aussi, mais je crois que Roland-Garros sera le tournoi d'adieu pour le grand Rafael Nadal.
Charlotte, en simple, est-ce que c'est terminé pour Rafael Nadal?
Malheureusement, je pense que oui. Je pense qu'il s'accroche, il veut vraiment rester. C'est un athlète exceptionnel qui a donné beaucoup, tant physiquement que dans tous les aspects par rapport à son sport. Mais je pense que on le voit, il se retire beaucoup, même dans la manière dont il annonce que malheureusement, mon corps ne me le permet pas. Donc, on sent beaucoup de chagrin, beaucoup de lourdeur dans ses annonces. C'est puis, triste. C'est triste. Puis, je pense que c'est un joueur qui voudrait plus que tout, il dit lui-même, revenir et jouer. Donc, quand on est rendu à un point où est-ce que ton corps ne te laisse plus performer à ce niveau-là, à ce, dans ces tournois-là, je pense que c'est le temps pour un autre appel. Il faut mettre sa santé en premier. Mais je pense que malheureusement, ça va être la dernière année, peut-être le dernier tournoi Roland-Garros pour notre joueur Nadal.
Je suis persuadé qu'il va jouer à Roland-Garros et qui sait, peut-être qu'après, pour les Jeux olympiques, quelques mois plus tard, sera présenté sur la retraite, sur le terrain comme nouveau retraité à Paris, ben voilà, dans le cadre des Jeux olympiques. Dernier sujet de la journée, mon cher Hugues. Écoute, ça fait plusieurs semaines que tu nous en parles. Le PIF, le Fonds d'investissement saoudien, se rapproche, ben, est déjà bien impliqué dans le tennis, déjà bien impliqué dans le monde du sport, se rapproche de plus en plus de la WTA et d'une potentielle présentation des finales en Arabie saoudite.
Ah ben, c'est annoncé. Déjà, les trois prochaines éditions, donc 24, 25, 26, auront lieu à Riyad. On savait que la WTA est à la recherche de nouvel argent. Le bilan est négatif depuis quelques années au niveau financier. Les dernières finales de la WTA aussi ont été des échecs, tant au niveau des billets vendus que de l'expérience pour les joueuses. Il y avait des problèmes là, qui devenaient évidents pour la WTA. Donc, l'Arabie saoudite leur est dans une perche. Après l'annonce donc, du PIF, du Public Investment Fund saoudien, pour présenter le classement donc, de l'ATP, c'est déjà en ligne maintenant, et les plus grands tournois, les cinq plus gros Masters 1000, bien là, on les voit rentrer du côté féminin maintenant avec ses finales à Riyad, et ce n'est que le début, j'ai là, donc cette mise en place là, de l'argent saoudien, de l'influence saoudienne dans le tennis ne fait que commencer. Je sais que dans les négociations, la WTA a été chercher quand même des éléments pour favoriser le développement des jeunes joueuses aussi en Arabie saoudite. Donc, il y a eu un échange qui a été fait. Ça a été plus long, cette annonce, que du côté masculin, du côté féminin. Je pense qu'il y a eu plus de négociations, mais là, c'est bien parti.
Ben, enfin, on verra qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, on va suivre la réaction des joueurs et joueuses, parce qu'on sait que ce n'est pas un sujet qui fait l'unanimité. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet-là. Hugues et Charlotte, je suis bien excité parce qu'on reçoit aujourd'hui notre préféré au podcast depuis déjà plusieurs années, Alexis Galarneau. Alexis, merci de te joindre à nous. C'est un parfait timing pour te joindre à nous parce que déjà, on voulait te parler déjà depuis un bon petit bout, mais là, tu arrives tout juste d'une finale au Mexique. Comment te portes-tu? Comment vas-tu, mon cher ami?
Ça va bien. Encore mieux avec la dernière semaine que j'ai eue. Merci de me recevoir. Ça fait du bien de revenir sur le podcast, parler un peu de ma saison. Il n'y avait pas grand-chose d'ici là parce que j'étais un petit peu blessé. Je revenais au jeu, c'était pas évident, mais là, je sens vraiment que je suis de retour pour de bon. Là.
Parle-nous de comment ça s'est passé d'abord et avant tout ce tournoi-là, puis comment tu vois un premier excellent résultat depuis le début de la saison?
Oui, je ne m'attendais pas à faire une finale aussi rapidement dans l'année. C'était mon troisième ou quatrième tournoi de l'année. C'était pas aussi facile que je pensais de revenir d'une blessure, de reprendre confiance, le rythme de jouer des tournois, tout ça. Mais avec mon entraîneur, je pense qu'on a fait une bonne job, puis ça a été vraiment une belle semaine.
Puis, parle-nous de cette finale-là. J'avais l'impression que tu étais peut-être, je sais pas, un peu fatigué, mais tu n'es pas du genre à trouver des excuses. Comment tu as vu cette finale-là?
Premièrement, c'est un super bon joueur, un joueur top 100. Donc, il avait l'habitude aussi de jouer des finales. L'année dernière, il était finaliste ici à Mexico City. Donc, je savais que c'était un bon joueur, il savait à quoi s'attendre. Après, oui, j'étais un peu fatigué, mais c'est aussi par le fait d'avoir joué un 3-7 en demi-finale. J'aurais pu probablement terminer ça en 2-7, donc je vais apprendre de cette petite gaffe-là. Puis sinon, c'est ça, j'ai essayé de compétitionner au mieux que je pouvais, mais il a bien joué, puis c'est ça. Ça a été quand même une belle finale.
Est-ce que la récupération, elle est plus facile avec les palmiers derrière toi?
Certainement, le soleil fait du bien, puis on mange bien ici aussi, donc on n'est pas à se plaindre.
Hugues, je te laisse enchaîner.
Oui, depuis la Coupe Davis, parle-nous un peu de comment tu t'es préparé, comment tu t'es remis de ta blessure, d'avoir un petit peu de recul là, sur ce qui s'est passé depuis quelques mois.
Ouais, ben, directement après la Coupe Davis, j'étais censé partir pour l'Angleterre pour un Challenger. J'ai décidé de repousser d'une semaine. Je me sentais pas tout à fait prêt, même si à la Coupe Davis, ça a quand même bien été, mais je sentais qu'il manquait un petit peu de travail, un peu de retrouver aussi l'aspect compétitif. Par la suite, je suis quand même parti 2 semaines en Europe. J'ai dû revenir après 2 semaines et non 3 semaines parce que j'étais un petit peu... physiquement, je me sentais pas incroyable. Donc, après, je suis revenu à la maison 3 semaines pour m'entraîner fort pour repartir pour ma tournée au Mexique. Puis je pense que, idéalement, avec du recul, j'aurais pris un petit peu plus de temps pour être prêt vraiment pour cette tournée-là. Puis ça a été le bon call de revenir en avance d'Europe. Mais c'est ça, c'est pas facile à gérer ces affaires-là, mais j'ai une belle équipe en arrière de moi pour m'aider à naviguer tout ça. Là.
Charlotte, tu as grandi avec Alexis, tu le connais peut-être beaucoup plus que nous. Je vais te laisser enchaîner avec la prochaine question.
Oui, bien, Alexis et moi, on se connaît depuis qu'on est vraiment tout jeune, là, je dirais même peut-être 10-12 ans. On a été au Centre national ici ensemble, on a voyagé sur plein de tournées ensemble. C'est vraiment un bon ami à moi, même quand on se voyait plus souvent, c'était comme un peu comme de la famille. Donc, ça fait vraiment plaisir de se revoir sous d'autres, d'autres conditions, puis aussi de voir son succès et ses résultats. Là, donc, très fière de lui. Moi, en fait, ma question, c'est un peu comment ton corps tient le coup maintenant que tu as pris peut-être un peu plus de temps pour ton corps, puis la récupération et tout ça. Puis, qu'est-ce qui est la suite pour toi maintenant? Ouais.
Mais le corps va super bien en considérant que j'ai joué 8 matchs en 10-11 jours. Donc, on essaie de s'entraîner au mieux qu'on peut, de se préparer au mieux qu'on peut. Mais l'aspect compétitif, tu sais très bien, Charlotte, on peut pas recréer ça en pratique. Donc, c'est vraiment d'aller en tournée, d'aller faire des tournois pour tester son corps, tout ça. Puis, je pense que ça a été vraiment un bon test. Puis, j'ai passé le test. Donc, maintenant, ça va être de bien enchaîner les prochains tournois. Aussi, de manager le repos, manager les tournois à jouer. Donc, il y a toujours une balance à trouver. Puis, c'est pas toujours facile à équilibrer. Hein.
Parle-nous, Alexis, de ton calendrier des prochaines semaines. Là. Est-ce que tu vas du côté européen? Est-ce que tu restes du côté américain? Qu'est-ce qui s'en vient là, ce printemps pour toi?
Donc là, j'ai encore 2 semaines ici au Mexique. Cette semaine, je suis à Morelos. C'est un Challenger 75. Ensuite, une dernière semaine au Mexique à Acapulco pour un Challenger 125. Puis ensuite, je vais revenir à la maison pour 2 semaines environ. Et partir en Europe pour préparer Roland-Garros et Wimbledon. On n'a pas encore décidé sur quel tournoi on va aller jouer pour préparer la terre battue, mais probablement 2 semaines avant, j'essayais de jouer 2 challengers et ensuite passer sur le gazon le plus rapidement possible. J'ai jamais joué sur le gazon, donc j'ai hâte d'essayer ça. Puis je pense que ça pourrait être une bonne surface pour moi.
Alexis, l'année passée, tu as eu une saison un peu... je ne sais pas si on peut appeler ça une saison d'éclosion, mais enfin, tu as quand même eu beaucoup de résultats probants et même encourageants. Est-ce que tu sens que ça continue d'aller dans la direction que tu veux, en dépit de, bon, peut-être un début de saison où ça a été plus compliqué avec les blessures?
Oui, je pense que tout le monde souhaite d'avoir continuer de progresser. C'est sûr que je décrirais ma dernière saison comme des hauts et des bas quand même pas mal. Donc, c'est de trouver une constance, tu sais, continuer de s'améliorer de semaine en semaine. Focuser un peu plus sur ce que je veux travailler avec mon entraîneur. Focuser vraiment plus sur le processus et non les résultats. Mais c'est sûr que l'année dernière, il y a eu beaucoup de bons résultats qui me prouvent que j'ai le niveau, que le top 100, c'est atteignable, tout ça. Mais après, c'est vraiment focuser sur les bonnes choses. Puis les bonnes choses, selon moi, c'est de focuser sur le processus. Hein.
En ce moment, tu travailles avec un entraîneur qui est avec toi au Mexique. Peut-être nous parler un peu de lui et comment ça fonctionne avec lui.
Mm-hmm. Ouais, ben, je connais Gary. C'est Gary Mueller qui est un Sud-Africain qui habite maintenant à Montréal. travaillé avec beaucoup de bons joueurs dans le passé. Je pense que ça fait peut-être 25 ans qu'il est sur le tour à coacher. Il a coaché des joueurs dont Bjorkman, Dominique Thiem. Donc, beaucoup d'expérience. On se connaît bien aussi, donc ça l'a aidé avec la transition. Puis, on a commencé à travailler ensemble depuis la Coupe Davis à Bologne. Donc, depuis ce temps-là, on essaie de manager aussi avec les blessures, tout ça. On n'a pas eu autant de temps pour travailler, pour se pratiquer. Mais là, d'être sur la route ensemble, c'est vraiment agréable. On s'entend super bien. Puis d'avoir son expérience, c'est aussi un gros plus pour moi.
Tu n'as pas toujours un entraîneur avec toi. Est-ce que c'est une pression, je ne sais pas, mentale de moins de savoir que y a quelqu'un, tu as un regard extérieur au-delà de peut-être au-delà du côté technique de la chose?
Oui, c'est sûr. Ça enlève, ça te permet de mettre tes énergies à la bonne place. C'est de juste vraiment focusser sur toi, qu'est-ce que tu as à travailler, puis ensuite demander à ton entraîneur, tu sais, les petites corrections à faire. C'est beaucoup plus facile à manager dans ce temps-là.
Oui, ben je suis d'accord avec ça. C'est sûr que c'est toujours plus facile. Tu laisses aller un petit peu certaines choses quand tu sais que ton entraîneur est présent puis que tu n'as pas besoin de penser à réserver les terrains pour t'échauffer ou à aller chercher les balles. Des fois, c'est des petites choses. Même des fois, c'est juste d'aller voir ton futur adversaire, un peu scouter, comme on dit, les autres joueurs du tournoi. Donc, c'est sûr que c'est un gros plus. Mais c'est pas toujours facile d'avoir un entraîneur avec soi puis de trouver le bon, comme tu disais, la bonne relation, la bonne connexion. Donc, je suis vraiment contente d'attendre que ça se passe bien là, ensemble.
Charlotte fait dire qu'elle est prête à aller te coacher aussi, si jamais tu as besoin d'un deuxième coach. Il y a un dernier élément sur lequel je veux t'amener, Hugues, à moins que tu avais quelque chose avant.
Tu commences à avoir touché pas mal toutes les surfaces. Tu me dis que tu vas aller sur le gazon pour la première fois. Mm. Espérons que tu as tes chaussures à picot déjà, s'il faut la semelle adaptée. Mais commences-tu à avoir une préférence au niveau surface? Tu le sais sûrement déjà, là, mais surface plus rapide, plus lente, Alexis, qu'est-ce que tu préfères?
Je pense que ça serait... idéalement, tu sais, j'aimerais ça jouer bien sur toutes les surfaces, mais... Je pense qu'encore maintenant, ça serait le dur extérieur où est-ce que c'est un petit peu plus lent. Ça me permet, tu sais, de mettre de la pression sur mes adversaires quand ils servent. Jouer dur intérieur, c'est plus compliqué parce que sur une bonne journée, un bon serveur peut battre n'importe qui. Tandis que dur extérieur, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment le joueur qui est tactiquement plus exact, qui est plus discipliné, qui physiquement aussi. Donc, ça serait ça pour l'instant, mais j'ai hâte de découvrir le gazon. Je pense que ça va être une belle surface. Puis avec mon entraîneur qui connaît bien le gazon, ça va être intéressant.
J'allais dire, j'ai un dernier élément sur lequel je veux t'amener, Alexis. Puis je te pose la question parce que je l'ai constaté à chaque fois que je me suis déplacé pour aller te voir. Je veux que tu me parles de l'importance de ta famille. Tu sais, je sais que ton frère, à chaque fois qu'il peut, ta sœur, même chose, si je ne me trompe pas, vont prendre le temps d'aller te voir jouer. Ta mère, elle est de plus en plus impliquée dans ta carrière. Parle-moi de l'impact de ta famille et peut-être principalement celui de ta mère là, qui travaille avec toi.
Oh, ben, ils sont là depuis la première journée. Charlotte s'en rappelle probablement. Tu sais, tous les tournois juniors qu'on a joués ici au Québec, toute ma famille qui vient, c'est un événement sportif. Ça nous permet aussi de nous réunir. Ça a été dur pour moi de ne pas jouer dans les derniers mois, puis de retrouver le terrain, la compétition, retrouver aussi le fait qu'ils regardent mes matchs. Ben ça nous réunit. Puis, je suis vraiment reconnaissant pour leur support. C'est incroyable.
Ta mère joue un peu le rôle de ton agente, d'une certaine manière. Comment vous gérez la relation entre agent et fiston?
On la gère bien. C'est d'identifier aussi les moments où est-ce qu'elle peut agir en tant que mère et les moments où est-ce qu'elle doit agir en tant qu'agente. Mais je pense que ça fait deux ans et demi maintenant qu'elle agit avec ce rôle-là, puis elle continue de s'améliorer, prend beaucoup de connaissances, prend les informations quand elle ne sait pas exactement quoi faire ou les infos. Donc, je ne peux pas demander mieux comme agente. Puis, je le sais qu'elle veut le mieux pour moi, donc ça, c'est gros pour moi.
Mais on salue Chantal, assurément, oui. Mon cher Alexis. Alexis, merci infiniment d'être venu nous jaser une fois de plus sur la ligne. Comme tu le sais, ben, tu es invité quand merci. Tu veux, mon cher ami. Félicitations pour cette belle finale au Mexique. Et puis, ben, écoute, bonne chance pour les prochaines semaines.
Merci à vous.
Ben voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre excellent travail, Charlotte. Et Hugues Léger, ben, comme Nicolas Richard n'est pas avec nous, je vais te donner le mot de la fin.
Ben, bon tennis, Alex. Bon tennis, Charlotte. Bon tennis, tout le monde.